20h-21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 15 avril 2019. Un incendie spectaculaire ravage la cathédrale Notre-Dame de Paris et emporte avec lui une partie de l'histoire de France. Le ciel est gris dans la capitale en cette fin d'après-midi du mois d'avril et les températures sont loin d'être printanières. Il est 18h, la ville lumière s'anime, les Parisiens quittent leur bureau, rentrent directement chez eux ou bien vont s'installer en terrasse pour y boire un verre, entre amis ou parfois seuls. Depuis quelques mois, la France est secouée par une crise sociale sans précédent et vit au rythme des manifestations qui chaque week-end voient se réunir des centaines de ceux que l'on appelle les gilets jaunes. La crise est telle que le président de la République, Emmanuel Macron, a décidé de s'adresser aux Français ce soir. Personne ne s'en doute encore, mais Paris s'apprête à être au cœur de l'actualité. Il est très exactement 18h23 lorsqu'un signal rouge s'allume dans le local de sécurité de la cathédrale Notre-Dame de Paris, installée dans le presbytère. Un agent est envoyé pour vérifier les toits de la sacristie, mais ne remarque rien d'anormal. Quelques minutes plus tard, l'alarme incendie se déclenche de nouveau. Mais il est déjà trop tard. La charpente médiévale de la cathédrale est en flammes. Les passants ébahis assistent en direct à un gigantesque incendie qui progresse à une vitesse folle. Aussitôt, la nouvelle se répand sur les réseaux sociaux. Chacun y va de son témoignage et les premières vidéos apparaissent. On y voit une épaisse fumée blanche qui s'échappe de la cathédrale. Ceux qui ne sont pas aux premières loges s'interrogent, se demandant quelle est cette fumée qui s'élève au-dessus des toits. Les premiers pompiers arrivent sur place. Il est environ 19h quand sur RTL, Marc-Olivier Fogiel annonce la nouvelle.
Et on vient de l'apprendre à l'instant, un incendie majeur est en cours à Notre-Dame de Paris. Ce sont les pompiers qui nous informent de cet incendie majeur en cours. Des précisions dans cette édition spéciale de RTL.
Les minutes passent et le feu continue de se propager. Des Parisiens se sont réunis à quelques mètres de là et assistent impuissants à ce spectacle tragique. Ce n'est plus seulement la fumée qui est visible, mais des flammes rouges, puissantes, qui montent dans le ciel et qui lèchent les nuages. Peu avant 20h, tout un symbole, c'est la flèche de la cathédrale Notre-Dame qui s'écroule. Filmée par les smartphones puis relayée sur les réseaux sociaux, la vidéo fait le tour du monde. Nous sommes le 15 avril 2019. Une partie de l'histoire de France brûle en direct et émeut le monde entier. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Merci à vous tous d'être fidèles à Jour J que vous écoutez sur RTL et en podcast. Ce soir, notre Jour J est l'un des vôtres, car nous savons tous ce que nous faisions le 15 avril 2019 quand Notre-Dame s'est embrasée. Une actualité dramatique ce jour-là qui en a éclipsé une autre. Écoutez Marc-Olivier Fogiel prendre l'antenne sur RTL. Il est 18h et pour l'instant, personne ne se doute de ce qu'il va se passer sous les combles de Notre-Dame de Paris.
Heureux de vous retrouver pour cette édition spéciale H-2. À 20h pile, Emmanuel Macron prononcera le discours le plus important de son mandat. Le président n'a pas le droit à l'erreur après 5 mois de crise des gilets jaunes.
Une heure plus tard, changement de ton et de programme. Jean-Alphonse Richard, chef du service police-justice sur RTL.
Un incendie est en cours à Notre-Dame de Paris, un incendie majeur, Jean-Alphonse Richard.
Absolument, le feu a pris dans la cathédrale il y a à peu près 40 minutes, 45 minutes. La cathédrale est actuellement évacuée des paroissiens qui se trouvent à l'intérieur. Il y a d'importants moyens de secours qui sont mis en place autour de l'édifice. Plusieurs casernes de pompiers sont engagées pour essayer d'arrêter ce feu qui brûle dans les combles de la cathédrale.
Mathieu Lourdes, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enseignant en histoire de l'architecture à Paris Cergy Université et vous êtes auteur du livre Notre-Dame des siècles aux éditions du Cerf. Alors, on va retracer ensemble, hein, évidemment, en archive cette soirée, je dirais, inoubliable. On sait tout ce que l'on faisait quand Notre-Dame a été en proie aux flammes. C'est non seulement notre jour J à nous, mais c'est aussi un grand jour de l'histoire de France.
Oui, c'est le jour où un des symboles de l'identité de la nation est parti en flammes.
Ça veut dire qu'on va retrouver cet événement dans les cours d'histoire de nos enfants ou nos petits-enfants ?
Incontestablement, c'est un des jours où la nation a rendez-vous avec l'histoire dans un drame. Mmh. Et ce genre de drame, forcément, renvoie aux images qui sont héritées du passé et accouche de quelque chose pour la suite. Donc forcément, c'est la définition même d'événement et on en parlera, à mon avis, dans les décennies à venir.
Vous-même, qui êtes enseignant, vous qui aviez lu des livres sur des incendies de cathédrales, vous l'avez vécu, je dirais pas de l'intérieur, mais vous vous êtes rendu sur place hein, dès que vous avez entendu les informations.
Alors, dès que j'ai eu l'information qu'il y avait de la fumée qui sortait de Notre-Dame, il y a un ami qui m'a dit « il y a le feu à Notre-Dame », je suis arrivé et... Donc en sortant à Châtelet du RER, le panache de fumée, et ensuite les quais de Seine, la découverte de l'incendie, et puis 10 minutes à peine après mon arrivée, la flèche qui s'effondre. Enfin, j'avais l'impression d'être plongé dans quelque chose d'atemporel. Mmh. Parce que ce que les chroniqueurs du Moyen-Âge décrivaient quand ils décrivaient un incendie de cathédrale, c'était ce que je voyais. Ce que les peintres du 19e siècle peignaient quand ils peignaient une catastrophe, c'est ce que je voyais. Quand je lisais Notre-Dame de Paris et qu'il y avait l'incendie fictif de la cathédrale, eh bien je le voyais. Donc toutes ces images se télescopaient dans une espèce d'effroi et de fascination qui s'associait finalement.
Alors voilà, quels sont les mots justement que vous pourriez associer à ce souvenir ?
Le mot qui est un peu l'incarnation de l'émotion romantique, c'est-à-dire le mot sublime, quelque chose qui vous fascine et qui peut vous tuer, vous détruire en même temps et qui détruit quelque chose de beau.
Vous aviez le sentiment que quelque chose se détruisait en vous et dans tous ceux aussi qui vous entouraient, qui s'étaient amassés sur les quais ?
C'est-à-dire qu'il y avait le sentiment qu'on ne verrait plus jamais Notre-Dame comme on l'avait vue et on avait l'impression qu'on l'aurait toujours vue comme ça. Ouais. Même si c'était faux, qu'elle avait changé d'aspect à plusieurs reprises dans son histoire. Mais on a l'impression que cette image était une image d'éternité, finalement, diffusée par tous les médias, depuis les guides touristiques jusqu'au dessin animé Disney, finalement.
Alors, on va revenir justement sur cette histoire et on va essayer de retracer la façon dont le feu a pris. Déjà, quand a-t-il démarré ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, ce qui s'est passé, on aimerait bien le savoir, mais...
Oui. On reviendra sur l'enquête après.
Effectivement, hein. Notre-Dame a malheureusement subi quelque chose de très fréquent dans l'histoire des cathédrales, qui est un feu de toiture. Et ce qui était exceptionnel, c'est qu'en 8 siècles, elle n'en est pas connue. Beaucoup d'autres cathédrales en ont connu, pas elle. C'était quasiment un miracle. Et malheureusement, ce miracle a cessé.
C'est ce qui faisait de Notre-Dame quelque chose d'intouchable, peut-être aussi,
oui,
non de sacré.
Cette charpente du 12e, 13e ouais. siècle qui était encore là. Il y avait quelque chose, on ne la voyait pas la charpente, mais on savait qu'elle était là, c'était le cœur finalement végétal de l'édifice.
Donc le feu a commencé à prendre, je le racontais en tout début d'émission, hein, une première alarme qui s'est déclenchée pendant que les paroissiens étaient à l'église, hein, et ça s'est déclenché. Le feu a pris 33 mètres au-dessus de leur tête, ils ne l'ont pas su, ils ont été évacués. Les équipes d'RTL en tout cas entendent parler de ça et se rendent sur place, il est 19h18.
On part sur le parvis de Notre-Dame, retrouver Morad Jabari puisqu'on a appris qu'un incendie était en cours dans la cathédrale, Morad.
Oui, absolument. Alors écoutez, les flammes font rage et montent au niveau du ciel. C'est la charpente, hein, la flèche de Notre-Dame qui était en restauration et qui est en train de se consumer tout simplement. Les combles qui sont en train de brûler, on voit les flammes monter dans le ciel avec une grande fumée blanche, jaune.
Ça part très vite un feu.
Ça part extrêmement vite, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la charpente, c'est un matériau combustible, et que en plus, vous avez l'encrassement, donc la poussière de bois, le guano de pigeon, c'est très combustible. Et puis, cette charpente était ventilée. Il y avait des petits trous à la base de la toiture qui permettaient d'éviter le pourrissement. Et avec le fort vent d'est qu'il y avait ce jour-là, évidemment, ça a fait un effet soufflet sur les flammes.
Quelques minutes plus tard, on prend la mesure dramatique de la situation. Écoutez.
Et on repart sur le parvis de la cathédrale de Paris, de Notre-Dame de Paris, où on vous retrouve, Morad Jabari. Le feu est en train de s'étendre à la charpente. Anne Hidalgo déplore à l'instant un terrible incendie qui est sous vos yeux, Morad.
Oui, exactement. La charpente de la nef est à présent visible. La nef est littéralement éventrée. On ne voit plus que des traversins. Il y a à présent et depuis quelques minutes, plus de toit sur la cathédrale Notre-Dame. Les flammes sont de plus en plus grandes, montent de plus en plus dans le ciel.
Alors, on assiste à ce feu qui démarre et finalement une petite fumée qui devient de grandes flammes qui vont lécher les nuages, qui vont lécher le ciel. Et puis, à ce moment-là, les pompiers sont déjà sur place. Hein. Ils interviennent, quoi, une demi-heure après la première alarme ?
Oui, c'est ça. Un peu avant 19h, vers 18h40, 18h50, les pompiers sont arrivés très vite. Mmh. Et à ce moment-là, le feu était déjà très important.
Voilà. Est-ce que les pompiers savent ? Moi, ça, je l'ignore. J'imagine qu'ils sont rompus à l'exercice. Mais Notre-Dame est un très vieil édifice. Vous allez nous raconter l'histoire de Notre-Dame un petit peu plus tard dans cette émission. Est-ce que les pompiers sont formés justement pour intervenir sur ce genre d'édifice ?
Oui, ils sont formés, mais ils sont confrontés à d'importantes contraintes techniques.
Voilà.
D'abord l'accessibilité aux parties hautes, et ensuite la portée des lances à incendie.
Parce que Notre-Dame mesure combien ?
Alors, la voûte est à 33 mètres, donc on doit être à une quarantaine de mètres au faîtage de la toiture.
D'accord, ok. Donc ça veut dire qu'au début, est-ce qu'on dépêche tous les pompiers nécessaires ou est-ce qu'ils arrivent au fur et à mesure ?
Alors, ils sont arrivés dès qu'ils ont pu, c'est-à-dire les casernes du centre-ville d'abord, les autres ensuite. Mais le dispositif est en place très très rapidement. Là-dessus, voilà. Vraiment, le maximum de ce qui pouvait être fait a été fait.
Voilà, mais même si le dispositif est mis en place très rapidement, les flammes sont là, elles sont absolument gigantesques. Évidemment, un incendie que l'on ne contrôle pas tout de suite et qui va très très fort et qui va très très vite. On y revient dans un instant dans Jour J. À tout de suite sur RTL.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Jour J se poursuit à Paris, sur les bords de Seine, au point zéro des routes françaises. Car c'est à partir du parvis de Notre-Dame que sont calculées les distances entre la capitale et les autres villes de France. Une rose des vents dans un octogone de bronze matérialise ce point zéro. Ce 15 avril 2019, le drame se produit, on s'en souvient tous. À 18h23, au moment de la lecture de l'évangile, il y a une alarme qui résonne dans toute la cathédrale. Un feu vient de se déclencher 33 mètres au-dessus de la tête des fidèles. Prévenus, les Parisiens foncent sur les quais, la foule est dense. Certains sont hypnotisés par ce spectacle aussi dramatique que grandiose. D'autres pleurent. Les médias se rendent sur place. Les envoyés spéciaux d'RTL assistent à un incendie ravageur. Raphaël Vantard intervient sur l'antenne pour nous parler d'une situation qui devient incontrôlable.
Allô, est-ce que vous m'entendez ?
Oui Raphaël, vous êtes sur l'antenne.
Oui voilà, le feu est en train de gagner le devant de la cathédrale. C'est terrible hein, ces images qu'on est en train de voir. Le feu qui avait pris sur l'arrière de la cathédrale Notre-Dame est en train petit à petit de gagner le devant et les fameuses deux grandes tours qui sont désormais sous les flammes. C'est une image qui est assez dure et impressionnante.
On entend plusieurs choses, Mathieu Lourcin. Hein. Vous êtes notre invité, vous êtes enseignant en histoire de l'architecture. On entend plusieurs choses. On entend les pompiers. On est dans cette archive, on est en direct sur l'antenne d'RTL. On entend l'émotion dans la voix de Raphaël Vantard qui, comme vous, assiste à ce spectacle que vous avez qualifié de sublime, de romantique, de tragique et en même temps d'absolument époustouflant. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de ceux qui vous entouraient, ce que vous avez retenu aussi de l'émotion qui étreignait les gens qui venaient assister à ça?
Alors, on était vraiment au cœur d'une émotion historique. C'est-à-dire qu'on avait des cris d'effroi, on avait des gens qui se mettaient à prier, qui se mettaient à chanter, des gens qui pleuraient. On avait une sorte, finalement, toutes les barrières tombaient. Les gens pouvaient exprimer vraiment ce qu'ils ressentaient au plus profond d'eux, c'était impressionnant. On avait l'impression d'être sortis du temps et de se dire que finalement, au Moyen-Âge, les gens n'auraient pas fait autre chose que ce qu'ils ont fait en 2019.
Voilà, vous parlez presque d'une réaction médiévale.
Oui. Oui, c'est-à-dire de se dire quelle signification ça a. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi?
Est-ce qu'il y avait une sorte de solidarité dans le chagrin ou est-ce que chacun était isolé dans sa propre émotion?
Alors ça dépend. J'ai vu beaucoup de couples qui se tenaient par la main, qui s'embrassaient. C'est-à-dire vraiment le besoin presque de sentir de la chaleur humaine dans l'affaire. Des groupes de chrétiens qui priaient ensemble, qui chantaient ensemble sur le pont de la Tournelle par exemple. Et puis beaucoup de gens qui étaient seuls. Enfin, c'était très très étonnant.
Vous dites qu'à 19h19, l'affaire était, pardon de le dire comme ça, pliée.
Oui, c'est-à-dire que quand le feu a gagné l'ensemble de la toiture et la flèche étaient perdues. En revanche, il était possible de sauver les tours. Et les pompiers ont vraiment sauvé les tours de Notre-Dame.
Ces pompiers, ils étaient 400 mobilisés, 18 lances sur des grandes échelles et des bras articulés pour essayer de sauver cet édifice. Ils avaient investi le site avec courage et au regard de la situation, on s'inquiète à leur sujet.
Vous demandiez tout à l'heure, Alice, s'il y avait des pompiers à l'intérieur
Absolument.
De la cathédrale Notre-Dame. Je suis en capacité de vous dire qu'effectivement, il y a des pompiers très courageux qui sont à l'intérieur des deux tours. On les voit actuellement. Ils sont au dernier étage en train d'essayer par différents endroits de mettre fin à ce terrible incendie qui a ravagé déjà à peu près toute la toiture de la nef, au-dessus de la nef de Notre-Dame. Cette toiture est déjà complètement ravagée à l'heure où on se parle.
Et à 19h50, on se souvient tous de ces images, la flèche de Notre-Dame s'effondre.
Et Morad, vous êtes à proximité de la cathédrale où les flammes continuent de gagner du terrain à l'heure actuelle.
Oui, exactement. La flèche en bois vient de s'écrouler sans bruit. Hein, depuis le pont de l'Hôtel de Ville, Notre-Dame a disparu. La cathédrale est complètement détruite. Le monument est éventré. À l'heure où je vous parle, il n'y a plus de nef, plus de charpente. Toute la charpente en bois a disparu, consumée par les flammes. Des flammes jaillissent encore de la cathédrale. Il ne reste plus que l'échafaudage métallique qui entoure la flèche.
Mathieu Lourcin, la chute de la flèche, c'est le symbole d'un désastre.
Oui, la chute d'un édifice, c'est toujours quelque chose de très fort. On se souvient du 11 septembre avec tous les morts et puis évidemment la dimension terroriste. Mais là, on assiste à la disparition dans les flammes de ce qui était le symbole de la légèreté, de l'élan vers le ciel, de cette flèche de Viollet-le-Duc.
Lorsque la flèche s'effondre, il y a le commandant des pompiers, le commandant Gallet, qui pense avoir perdu 15 de ses hommes. Et c'est le président Macron qui avait dû prendre une décision très très difficile. Expliquez-nous.
Oui, il s'agissait d'envoyer les hommes vraiment au cœur du brasier pour essayer de sauver des parties décisives de la cathédrale. Et fort heureusement, ils ont survécu. Mais il y a eu un temps pendant lequel on ne savait pas ce qu'ils étaient devenus. Et donc, il y a eu vraiment une décision souveraine de sauver la cathédrale.
Voilà, de prioriser la cathédrale. Oui. La voûte, elle s'est écroulée contre toute attente.
Oui, c'est étonnant parce que dans beaucoup de cathédrales qui ont connu des feux de charpente, généralement, la voûte tient. À Nantes en 1972, à Chartres en 1836.
Pourquoi,
et on a découvert à cette occasion que les voûtes de Notre-Dame étaient d'une extrême légèreté. Elles faisaient à peine 10 à 15 cm d'épaisseur contre 30 cm à Chartres. Les bâtisseurs de Notre-Dame avaient visé à la légèreté pour donner davantage de lumière dans l'édifice.
Ce qui faisait aussi d'ailleurs le caractère magnifique hein, de la voûte de Notre-Dame.
Absolument. Mais du coup, la flèche a transpercé la voûte là, au niveau de la nef. Le trou est encore là, hein, ce trou béant.
Ouais.
Et puis l'accumulation des matériaux sur la voûte centrale de l'édifice, la voûte de la croisée, eh bien, a fait que pendant la nuit, elle s'est effondrée.
Donc après l'incendie.
Après l'incendie.
D'accord.
C'était encore chaud, mais...
Combien de temps il a fallu pour éteindre le feu, en fait ? À quel moment est-ce qu'on a considéré qu'on avait sauvé Notre-Dame ?
Alors, il a fallu attendre, je pense, jusqu'au petit matin pour être sûr qu'il n'y avait pas d'autres départs de feu, qu'il n'y avait pas eu des brandons enflammés qui avaient mis le feu au toit des chapelles latérales, par exemple, sur les côtés de l'édifice. Mais le lendemain matin, on pouvait dire que la structure était là.
Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, quand vous avez appris que la structure avait été sauvée ?
Alors, ça a confirmé l'intuition que j'avais eue. Parce que quand on voit la manière, pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, combien les cathédrales avaient tenu. La cathédrale de Reims avait eu l'incendie de charpente, 250 obus, et elle est toujours là, et on a pu la restaurer. J'avais quand même, dans un coin de ma tête, l'idée qu'on allait pouvoir reconstruire Notre-Dame. Mais on ne sait jamais. Il suffit d'un déséquilibre et un effondrement important de l'édifice. Mais voilà, ça confirmait l'idée qu'il y a une résilience des monuments.
On saluera le courage et l'acharnement des 400 pompiers à sauver Notre-Dame ce jour-là. Certains seront blessés. On ne déplorera, vous l'avez dit, aucune victime, pas même une parmi les 200 000 abeilles qui vivaient dans les trois ruches installées sur le toit de la sacristie en 2013. Donc un exploit des sapeurs-pompiers de Paris. On se retrouve dans un instant dans Jour J pour revenir sur l'enquête. L'enquête qui a suivi évidemment l'incendie de Notre-Dame et ses premières conclusions. À tout de suite.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Que s'est-il passé ce 15 avril 2019 à Notre-Dame de Paris pour que la cathédrale, véritable vigie parisienne, rendez-vous des paroissiens de la capitale, l'un des sites touristiques les plus célèbres de la planète, s'embrase sous les yeux affolés et éplorés du monde entier? D'où un tel feu enragé, dévastateur, a-t-il pu partir encore sous le choc? On cherche à comprendre. La piste des travaux de rénovation est tout de suite explorée. Écoutez André Fineau, le porte-parole de Notre-Dame de Paris, le jour même, le soir même, sur RTL.
C'est un montage d'échafaudage en fait qui était là pour monter tout en haut de la flèche de la cathédrale qui culmine à 96 mètres de haut. L'idée étant de déposer les panneaux de plomb en fait qui sont posés sur une structure en bois et l'échafaudage était juste là en fait pour envelopper cette flèche et de pouvoir déposer les panneaux sereinement.
Mathieu Lourz, vous êtes notre invité. Merci à vous. L'enquête, elle a été diligentée tout de suite. On va revenir sur ce qu'elle a révélé, mais on s'inquiétait déjà de la sécurité de l'édifice en février 2015. Donc 4 ans avant l'incendie.
Oui. La question de la sécurisation des monuments historiques face aux incendies, elle est ancienne.
Ouais.
Et on ne peut pas faire effectivement ce qu'on veut sur des charpentes du 12e, 13e siècle. Placer des systèmes anti-incendie, ça pose de vraies questions.
D'accord. Et donc, il paraît qu'on avait retrouvé des mégots déjà en 2015 sous la charpente. C'est-à-dire qu'on a découvert, nous, lambda, hein, que Notre-Dame était au cœur quand même de questions de sécurité bien avant cet incendie.
Oui.
Presque qu'il y avait des signaux qui auraient dû alerter.
Notre-Dame et l'ensemble des cathédrales. Le budget alloué aux cathédrales permet des restaurations, permet un petit peu d'entretien courant, mais il n'est quand même pas suffisant pour garantir systématiquement qu'on soit dans des conditions optimales partout.
D'accord. Mais la sécurité d'un édifice comme celui-ci, par exemple, est-ce que ça nécessite des travaux qui vont endommager l'histoire et la structure d'une cathédrale? Est-ce que c'est ça la difficulté, de toucher à l'histoire et de devoir quelque part moderniser des édifices qui en souffriraient?
Vous avez une charpente du 12e siècle. Vous lui mettez des cloisons coupe-feu en béton. Vous imaginez le dilemme patrimonial. Ça vous permet de faire en sorte que la charpente survive à un incendie, mais vous allez la mutiler. Vous n'allez plus jamais pouvoir voir votre charpente. Vous allez mettre du béton sur des poutres qui ont 8 siècles.
Et donc ça, ça veut dire qu'il faut faire un choix entre l'histoire et la sécurité ?
Il y a un arbitrage à faire, et il faut arriver à faire l'arbitrage le plus étroits possible entre les deux. Et on peut y arriver, mais ça nécessite de l'investissement, ça nécessite des études. Et il y a 87 cathédrales qui appartiennent à l'État. Donc il faut le faire partout, progressivement.
Mais pardon, mais on aurait pu se dire que c'était fait à Notre-Dame de Paris. Et là, on a l'impression qu'il y a eu des manquements. Et
alors, il y avait quand même un des systèmes anti-incendie les plus remarquables à Notre-Dame, parmi ceux qui existent.
D'accord.
Qui existaient, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites depuis l'incendie. J'imagine. Il y a eu un plan cathédrale. Voilà, l'État a fait le nécessaire pour qu'on pose les réflexions et que des choses soient réalisées.
Bon, alors, et puis on a déploré aussi, paraît-il, un manque de personnel de sécurité. Que l'agent de sécurité, ce jour-là, en fait, avait eu juste 2 demi-journées de formation, qu'il était seul. Moi, je pensais qu'il y avait plein d'agents de sécurité la nuit à Notre-Dame et pas une seule personne.
Alors là, il y avait des personnels affectés à la sécurité, mais plutôt dans l'édifice, pour les flux de visiteurs, de fidèles. D'accord. Et devant le PC sécurité, il y avait la personne qui devait y être. Mais effectivement, voilà.
Ça n'était pas suffisant, en fait.
En l'occurrence, ce jour-là, non.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ça. Est-ce qu'on peut se dire que ça a été touché par la grâce pendant tout un temps et que ce jour-là, quelque part, s'est abattu
La vraie question, c'est surtout de savoir pourquoi le feu n'a pas réussi à être détecté lors de la première alerte de la journée.
Oui.
Parce que finalement, si le feu avait été détecté à ce moment-là, les choses se seraient déroulées comme elles auraient pu se dérouler. Et l'agent a fait son travail à ce moment-là.
Ouais. Qu'est-ce qu'elle a révélé, cette enquête ? Pas grand-chose, en fait. C'est ça qui est dingue.
Elle a révélé au moins que ce n'est pas un incendie criminel suivant toute vraisemblance.
D'accord.
C'est déjà quelque chose d'énorme.
D'accord.
Parce que ça permet de dire qu'il ne s'agit pas d'un acte de malveillance. Sur la signification de l'incendie, c'est très important.
On ne s'en est pas pris à Notre-Dame, volontairement. OK.
Ça, c'est déjà quelque chose qui permet de s'orienter vers la chose la plus malheureusement banale qui soit, un feu qui intervient pour une période de chantier sur un édifice. Dans l'histoire, la plupart des feux de toiture interviennent pendant des chantiers. À Nantes, en 1972, un ouvrier qui laisse tomber un chalumeau. À Chartres, en 1194, on ressoudait déjà des plombs sur le toit de l'ancienne cathédrale.
D'accord. Et là, c'est quoi ? Parce qu'on a parlé aussi d'une cigarette mal éteinte un ouvrier. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est un chalumeau ? Est-ce que c'est un circuit électrique ?
Au Cluedo de Notre-Dame, on a 2 suspects qui demeurent, qui sont le mégot ou le court-circuit électrique.
D'accord. Et on ne saura jamais ?
On va peut-être savoir, je ne sais pas quelles sont les capacités d'enquête qu'ont les experts par rapport aux vestiges de trouver ce dont il s'agit, mais finalement, c'est les deux éléments qui sembleraient les plus plausibles.
Mais Mathieu Lours, si on part sur la théorie du mégot de cigarette, comment un mégot peut-il faire s'embraser une charpente ?
Alors, si vous mettez un mégot sur une poutre, il ne se passera pas forcément grand-chose.
Bah non.
Mais si vous mettez votre mégot sur de la poussière de bois et des fientes de pigeons accumulées, là, c'est combustible.
Ça prend tout de suite,
quoi. Et après, un petit peu de vent d'est par les bouches d'aération. Et là, ça vous donne l'allumage parfait d'un brasier.
C'est intéressant ce que vous dites parce que vous êtes spécialiste, puisque vous êtes enseignant en architecture. Et en fait, j'imagine que les édifices, comme ça, racontent des histoires.
Oui.
C'est ça qui doit rendre votre métier passionnant.
C'est-à-dire
qu'ils ont tous la trace. Voilà.
C'est une enquête.
Donc, est-ce que Notre-Dame parlera un jour sur le drame qu'elle a vécu ?
J'espère. Parce que c'est toujours intéressant de savoir ce qui s'est passé pour que ça n'arrive pas ailleurs.
Oui, bien sûr. Vous dites que les choses ont changé depuis. Ça veut dire que la prochaine Notre-Dame sera mieux équipée, j'imagine ?
Oui, incontestablement. Et puis sur une charpente toute neuve, vous pourrez, sans attenter à un élément historique, placer des dispositifs de sécurité.
On reviendra sur Notre-Dame de demain un petit peu plus tard dans cette émission. Mais dans un instant, vous allez nous raconter l'histoire de Notre-Dame. On a tous eu le sentiment qu'on a été touché en plein cœur par son incendie. Mais est-ce que vous connaissez véritablement l'histoire de cette cathédrale ? Monsieur le professeur va vous donner un cours dans un instant.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Notre invité dans Jour J est l'auteur d'un livre, Notre-Dame des siècles, aux éditions du Cerf. Il est enseignant en histoire de l'architecture à Paris-Cergy Université. C'est fou comme on a envie de reprendre les cours quand on vous écoute, Mathieu Lours. Si notre cœur a saigné pour Notre-Dame ce 15 avril 2019, si on a tous eu le sentiment qu'une part de l'histoire de France disparaissait dans les flammes, si Notre-Dame finalement c'était un peu celle de tout le monde, on ne connaît pas véritablement l'histoire de cet édifice. Alors racontez-nous, monsieur le professeur.
Alors Notre-Dame de Paris, c'est l'église du pouvoir. Depuis Childéric jusqu'à Emmanuel Macron, aucune église n'a autant incarné le pouvoir politique et son lien avec le sacré. Parce que c'est l'édifice qui, au cœur de l'île de la Cité, est celle où le roi exerce le pouvoir. Ce n'est pas la cathédrale de Reims, c'est-à-dire qu'on ne va pas sacrer un roi à Notre-Dame de Paris, si, mais un faux, un roi d'Angleterre en 1431. Et ce n'est pas non plus la basilique de Saint-Denis, on n'y enterre pas les rois, mais c'est là que les rois viennent prêter serment de respecter les droits et les privilèges du clergé de France, juste après le sacre. Il vient se mettre à genoux devant l'évêque de Paris, et cette scène, elle est représentée sur le portail de droite de Notre-Dame de Paris. Et puis, dès qu'il y a un grand événement politique dans l'histoire de la nation, on va à Notre-Dame le célébrer.
Elle date de quand ?
Alors, sous sa forme actuelle, elle a été commencée en 1163, mais il y a là une cathédrale depuis l'an 350 environ. Donc la cathédrale qu'on voit, c'est quasiment que c'est moins de la moitié de l'histoire de la cathédrale parisienne. Donc elle a été entreprise en 1163 par l'évêque Maurice de Sully pour donner à la plus grande ville d'Occident, Paris, la plus grande cathédrale d'Occident. Elle a été dépassée ensuite par Reims, par Amiens, mais quand elle est entreprise, c'est la plus grande.
On a mis longtemps à la construire.
Le gros œuvre est achevé vers 1225, mais à ce moment-là, elle n'est déjà plus à la mode. Et vers 1250, c'est le relooking complet de Notre-Dame.
Ah bon,
on la trouvait trop obscure, trop lourde, et on va agrandir les fenêtres, reconstruire l'extrémité des transepts, c'est-à-dire les bras transversaux de la croix, et y placer deux énormes rosaces, les plus grandes rosaces qu'on ait jamais vues, avec 13,50 m de diamètre. Et on va, au sommet de cette cathédrale, construire la première flèche. Et ces transformations de Notre-Dame s'achèvent vers 1325. Donc Notre-Dame, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est un édifice commencé en 1163 et fini vers 1325-1335.
Est-ce qu'elle a subi des modifications depuis 1335 ?
Oui, elle a connu d'importantes modifications, surtout au XIXe siècle pour l'aspect extérieur. Elle avait beaucoup souffert d'un défaut d'entretien surtout, et sa restauration commence sous la monarchie de Juillet et surtout sous le Second Empire. Et en 1864, c'est l'inauguration de cette Notre-Dame restaurée, grâce à l'architecte de génie Eugène Viollet-le-Duc, qui lui donne une nouvelle statuaire et qui lui donne sept nouvelles flèches, plus somptueuses et plus décorées que toutes les flèches précédentes.
Elle était en quoi, cette flèche ?
Cette flèche est en charpente, en bois, recouverte de plomb. Ça permettait, le plomb étant un métal particulièrement souple, ça permet de décrire des fleurons, d'avoir des motifs animaliers, végétaux. Et donc, on avait vraiment une floraison d'éléments décoratifs.
Elle est très ornementée, hein, Notre-Dame.
Oui. Cette ornementation est largement du XIXe siècle. Cette espèce de griffon qu'on appelle le strige, par exemple, c'est entièrement la fantaisie du XIXe siècle. Et puis, on a quand même des ensembles statuaires remarquables sur les portails qui ont réussi à survivre à la Révolution. Donc c'est un monde d'images, cette cathédrale. Images de pierre, images de verre dans les vitraux, et puis tous les tableaux du XVIIe, XVIIIe siècle qu'elle conserve, parce qu'elle s'est enrichie à toutes les époques de son histoire.
Elle est gigantesque par ses dimensions,
oui.
Gigantesque par son faste, je dirais. Très impressionnante pour ceux qui nous écoutent et qui n'étaient jamais rentrés dans Notre-Dame de Paris. C'est vrai qu'on est tout petit, et puis il y règne l'atmosphère du temps qui passe, de l'histoire qui passe. Elle a vu passer plein de rois, elle a vu passer plein de politiques, elle a accueilli des cérémonies. Donc c'est vraiment là que se passaient les choses essentielles en fait de Paris.
Oui, c'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, et même plus largement qu'à Paris, au XVIIIe siècle, le clergé de la cathédrale parle d'elle comme étant la paroisse de l'État et de la nation.
Ouais.
Et c'est vraiment ça. Quand on veut célébrer, par le biais d'une cérémonie catholique, quelque chose qui concerne la France entière, c'est à Notre-Dame que ça se passe.
Et puis Notre-Dame, c'est aussi le fantasme. Ce sont aussi des histoires.
Oui.
C'est Victor Hugo. Ce sont des peintures. C'est Monet. Enfin, je veux dire,
c'est le premier édifice à avoir été le personnage principal d'un roman. Notre-Dame de Paris, c'est pas Esmeralda, c'est pas Quasimodo, les héros. C'est Notre-Dame de Paris. C'est la première fois que ça arrive.
Elle a été peinte, elle est photographiée dans le monde entier. Donc Notre-Dame, c'est le symbole d'une période de France ou c'est le symbole de Paris? Est-ce que c'est le rayonnement de Paris dans le monde entier?
Bah, je dirais c'est le symbole de la France.
Ouais.
C'est vraiment le symbole de la France.
La France religieuse.
Et au-delà, elle appartient à l'État. Elle appartient à un État laïque depuis 1790. Et donc, elle appartient à tous les Français. Elle a une dimension religieuse. Elle est affectée de manière perpétuelle et exclusive au culte catholique, mais elle appartient à la nation.
Quelle place est-ce qu'elle tient dans votre cœur, vous qui êtes justement spécialiste des cathédrales?
Alors, une place étonnante. Ce n'est pas ma préférée du point de vue esthétique et stylistique.
C'est laquelle, à vous?
J'ai une inclination pour la cathédrale de Bourges, que j'adore à titre personnel. Mais Notre-Dame de Paris, c'est celle qui m'impressionne le plus du point de vue de sa charge historique et de sa vie spirituelle. C'est-à-dire que quand on y rentre, il y a toujours du monde, il y a toujours des gens qui prient, il y a toujours des messes, il y a toujours une allusion à un élément de l'histoire de France. Donc c'est celle où se superpose finalement la dimension religieuse, la dimension politique, la dimension esthétique, même si dans sa conception, finalement, ce n'est pas celle qui me fascine le plus.
Vous avez pleuré, vous, lorsque vous l'avez vu s'embraser?
Non, je crois que je me suis... Non. J'ai été stupéfait. C'est rare qu'on soit comme ça, qu'on éprouve un sentiment qui est de l'ordre de l'effroi, de la stupéfaction, une fascination. Mais il n'y a pas eu de larmes, non.
Où en est-on de la réfection de Notre-Dame de Paris? Je suis en train de... Là, je vais partager avec nos auditeurs. En fait, tout le monde vous écoute religieusement dans ce studio. On est tous en train de prendre un cours. Et
religieusement, en levant, c'est justement de circonstance.
Exactement. Et en levant les yeux, je vois toute l'équipe qui vous regarde. Et c'est passionnant. J'imagine que nos auditeurs sont à peu près dans le même état à l'écoute de cette émission. On se retrouve dans un instant pour parler de la réfection de Notre-Dame de Paris.
Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
Nous sommes donc le 15 avril 2019. Ce soir-là, Emmanuel Macron, qui s'était rendu sur place à Notre-Dame de Paris, prend la parole. Il est 23h40.
Je vous le dis ce soir avec force. Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. Et là aussi, nous mobiliserons. Après le temps de l'épreuve, viendra celui de la réflexion, puis celui de l'action. Mais ne les mélangeons pas. Ne nous laissons pas prendre au piège de la hâte.
Mathieu Lourdes, déjà une réaction face à ce discours.
C'est la première fois dans l'histoire qu'un président de la République prend la parole pour parler d'un édifice.
Exactement. Et il s'adresse au cœur des Français. Nous sommes un peuple de bâtisseurs. C'est-à-dire que c'est la France dont le cœur saigne ce soir-là.
Oui. Et c'est un édifice qui appartient aux Français.
Ouais.
Dans un État démocratique, l'État, c'est nous. La nation est souveraine.
C'est un discours historique. Hein. C'est,
oui.
Là, il n'y a plus de politique. On est vraiment dans quelque chose de... On a un leader qui est donc le grand patron d'une nation et qui explique à cette nation, voilà, on va reconstruire, on va y aller, on va y parvenir. Et l'objectif, c'est 5 ans. 5 ans, oui. Ça paraît... Enfin, quand on voit les dégâts le lendemain et qu'on découvre les premières images qui ont pu être prises au cœur de Notre-Dame et qu'on voit cet édifice éventré, ravagé, on se dit 5 ans, c'est presque utopique.
5 ans, c'est aussi un objectif.
Ouais.
Et si on ne se fixe pas d'objectif, on n'arrive pas non plus à mobiliser les énergies.
Ouais.
Et puis 5 ans, ça dépend des financements. Et les financements sont ici abondants.
Alors, il faut dire aussi qu'effectivement, au lendemain de l'incendie, tout le monde, d'ailleurs les Français, ont participé.
Oui. Hein. Alors, habituellement, quand il y a un édifice détruit et qu'il appartient à l'État, c'est l'État qui paye. Cette fois-ci, l'État a décidé de payer de manière indirecte, par la défiscalisation. Parce que d'une certaine manière, l'État paye. Parce qu'il y a 75% de défiscalisation.
Voilà, le don est défiscalisé.
Et c'est très intéressant de voir que ça permet d'associer la cathédrale à un élan populaire.
Et en plus, on a vu des grandes fortunes, pense à Liliane Bettencourt ou à d'autres, hein, qui ont décidé de donner des millions pour pouvoir permettre la réfection de Notre-Dame. On en est où là, aujourd'hui?
Alors, on en est dans une cathédrale dans laquelle se trouve un échafaudage colossal, qui a permis de la consolider.
Alors attends, donc au milieu de la cathédrale, on a un échafaudage aujourd'hui.
Un échafaudage, une cathédrale de métal à l'intérieur de la cathédrale de pierre.
Comme un squelette finalement.
Exactement.
De métal.
Okay. Et à l'extérieur, des cintres en bois. C'est-à-dire qu'on a quasiment la pierre qui est prise en sandwich entre une armature de bois à l'extérieur et une armature de métal à l'intérieur qui a permis de consolider la voûte, de sauver l'édifice donc, de commencer les études préalables et d'achever même une bonne partie des études, et par-dessus, un voile de plastique blanc qui la met hors d'eau. Okay. Donc c'est quasiment une installation d'art contemporain.
D'accord.
Quand on y est.
Okay.
C'est impressionnant.
Alors, ces travaux, donc là, on a consolidé l'édifice. Après, comment ça va se passer? Il y a eu plein de propositions qui ont été faites par des architectes. Alors, il y a le fait de refaire Notre-Dame à l'identique. Et puis, on a eu d'autres propositions que d'aucuns ont jugées un peu délirantes, mais qui avaient le mérite, en tout cas, d'exister. On en est où aujourd'hui? Donc, on va rester sur la Notre-Dame qu'on a toujours connue?
Oui, le choix a été pris de reconstruire la cathédrale telle qu'elle était à la veille de l'incendie. Et okay. C'est un choix de raison, puisqu'on connaît le dernier état qui était celui de la cathédrale. C'est l'œuvre d'un grand architecte, Eugène Viollet-le-Duc, et techniquement, on sait très bien refaire ce genre de choses.
Okay.
Donc ça s'imposait.
Okay. Et, vous étiez partisan, vous, de cette...
Moi, j'ai défendu le projet de reconstruction à l'identique, parce que rien n'empêche de construire une cathédrale contemporaine avec une flèche contemporaine. Ailleurs en France, il y a des besoins, et on peut très bien envisager ça. Mais c'est tout à fait naturel que les architectes aient proposé. Et je pense que ces dessins qui ont été soumis feront date dans l'histoire de l'architecture. Et c'est, à mon avis, une bonne chose qu'ils existent. Mais pour la continuité de l'histoire, et aussi parce que cet incendie n'étant pas un incendie criminel, qu'allait-on commémorer par une transformation de l'édifice?
C'est vrai.
Un mégot? Voilà. Donc l'idée, c'était d'être dans une logique de résilience. Et ça colle tout à fait avec la pandémie actuelle. Revenir au monde d'avant, c'est finalement le souhait le plus cher de beaucoup de monde.
C'est vrai. Les travaux seront-ils terminés donc dans 2 ans maintenant?
Alors ça, seul l'avenir nous le dira. Mais les travaux ont bien commencé. Du moins, les étapes qui ont été accomplies jusqu'à maintenant ont été accomplies dans les règles de l'art et dans des délais qui ne sont pas insensés, malgré la pandémie. Et donc, il n'est pas impensable qu'une partie au moins de l'intérieur de Notre-Dame puisse abriter des cérémonies en 2024. Mais il peut y avoir des imprévus.
Quel chantier, non seulement pour les architectes, mais je pense à tous les artisans, les artisans d'art qui vont participer à la renaissance de Notre-Dame. C'est un chantier de dingue.
Ah, c'est pour eux une expérience unique.
Ouais.
Construire une charpente médiévale à l'identique avec... les matériaux actuels, le bois actuel, c'est quelque chose qui, à l'échelle de l'histoire, arrive une fois par siècle à peu près, pour une entreprise, et encore, quand ça arrive.
Vous êtes impatient de la retrouver, Notre-Dame?
Oui. Et impatient de voir la manière dont son rapport avec les Français va peut-être changer. Parce que, finalement, elle faisait partie des meubles. Et bon, ok... qu'on attende encore 4-5 ans pour la rénover, après tout, il y avait d'autres priorités. Et là, on va voir des gens heureux de voir quelque chose qu'ils voyaient tous les jours et dont ils ne réalisaient peut-être pas de manière consciente à quel point il leur était cher.
Merci beaucoup Mathieu Lours.
Merci à vous.
D'avoir accepté mon invitation. Merci le professeur. Je conseille vos ouvrages Notre-Dame des siècles aux éditions du Cerf et la sortie de votre nouveau livre, c'était il y a peu de temps, La grâce des cathédrales aux éditions Place des Victoires. Merci à vous.
Merci à vous.
À bientôt dans Jour J et peut-être, on ne sait jamais, dans 2 ans à Notre-Dame de Paris.
Très volontiers.
Merci Mathieu Lours.
Merci.